Le journal.
Radio Capi.
Oh, Capi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Après plus de deux ans de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, le chef de l'État annonce un allègement progressif et graduel de ce régime. Félix-Antoine Tshisekedi s'exprimait ainsi hier au cours d'un message à la nation sur la chaîne nationale. Province du Tanganyika, le choléra a déjà tué 13 personnes sur plus de 200 cas enregistrés dans le territoire de Kabalo depuis deux semaines. L'administrateur du territoire dépassé lance un SOS aux autorités provinciales et à d'autres partenaires. Et puis, l'invité de ce midi, Nestor Mavoudissa, porte-parole du commandant de la 3e zone de défense des FARDC au Sud Kivu, il va nous parler notamment de la visite hier à Minembwe du lieutenant-général Marcel Mbangu, visite d'évaluation de la situation sécuritaire dans la zone. Madame, Messieurs, bonjour. J'ai pris la ferme résolution de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État au cours d'un message à la nation hier jeudi sur la nationale, la chaîne nationale, la RTNC, après deux ans et quatre mois du régime d'exception dans ces deux provinces du nord-est de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi dit avoir pris la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé des populations à une vie civile et citoyenne normale. On écoute le président Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait proposé par Alain Rong.
J'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune.
Pendant ce temps, en Ituri, la réqualification de l'état de siège par le président de la République ne répond pas aux attentes de la population de cette province où les groupes armés sont actifs depuis 2017. Cette déclaration est faite ce vendredi par le coordonnateur de la société civile. Dieudonné Lossa précise que la population s'attend au renforcement de l'effectif des FARDC et l'organisation des opérations militaires de grande envergure qui n'ont jamais eu lieu pendant toute la période de l'état des sièges, cela en vue de mettre fin aux violences des groupes armés. Plus de détails avec Isaac Remoyope.
Selon la société civile de l'Ituri, la décision du chef de l'État était attendue par la population de l'Est et de la RDC depuis la clôture de la table ronde tenue du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa sur la suite de cette mesure exceptionnelle instaurée depuis plus de deux ans. Dans son adresse la nuit dernière à la télévision nationale, le président de la République a résolu de réqualifier l'état des sièges avec quelques mesures d'accompagnement dont la levée des couvre-feux. Selon cette structure citoyenne, la population de l'Ituri s'attendait plutôt à ce que le chef de l'État puisse renforcer l'effectif des FARDC dans cette province où plusieurs positions de militaires ont été dégarnées pour combattre les M23 au Nord Kivu, mais aussi de lancer des opérations militaires pour traquer les groupes armés locaux et étrangers qui continuent de commettre de graves violations des droits de l'homme. Ces deux préalables sont les garanties pour la restauration d'une paix durable en Ituri, précise Dieudonné Lossa.
L'état des faits, ce sont des opérations militaires de grandes envergures qui n'ont pas eu lieu en Ituri. Et nous n'avons même pas de militaires pour laisser ces opérations en Ituri. Nous, on s'attendait à c'est qu'on renforce à ce moment les opérations militaires, on donne les équipements militaires pour traquer tous ces militaires qui ne vont pas obtempérer à l'ordre.
Pour rappel, une dizaine de groupes armés sont actifs en Ituri, dont la plupart ont signé l'acte unilatéral de cessation des hostilités. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et du côté du Nord Kivu, la situation reste relativement calme ce vendredi sur toutes les lignes de combat qui opposent depuis quelques jours les rebelles du M23 à une coalition des groupes armés locaux. C'est en particulier dans le territoire de Rutshuru. Cependant, des mouvements des populations sont signalés à certains endroits alors qu'au niveau de Tongo, la population reste comme prise en étau. Bernard Danyangi, reportage.
C'est seulement vers 21h locale hier jeudi que quelques tirs ont été entendus dans le village Kienge dans le groupement de Tongo, indiquent certaines sources locales. Elles précisent qu'à part cet accrochage qui n'aurait duré que quelques minutes, toute la zone, en l'occurrence les axes Kalenger à Tongo et Rwaza, Rugari, Buiza, vit une accalmie précaire depuis hier jusqu'à ce vendredi. Un acteur de défense des droits humains de la région déplore toutefois le fait que le centre de Tongo soit presque enclavé. Les deux principaux axes de sortie pour la population, notamment Tongo Kalengera et Tongo Bishusha, étant des zones où les affrontements se répètent chaque fois. Par ailleurs, au niveau de la chefferie de Bucha, le village de Kinyandoni, à 6 km de Kiwanja, se serait vidé de sa population sur instruction des rebelles du 1-23. C'est peu après des affrontements mercredi dans ce village entre les mêmes belligérants. Toujours dans cette zone, nos sources parlent d'une psychose dans le village de Rwanguba sur la route menant à Bunagana. Un psychologue clinicien de l'hôpital général de référence de Rwanguba a été arrêté hier jeudi par les rebelles du 1-23 et jusqu'à présent, sa famille n'a aucune nouvelle de lui. Goma, Bernard Dinyangi, Radio Kapi.
Par ailleurs, l'ambassade des États-Unis note avec vive inquiétude la recrudescence de la violence dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Dans un communiqué publié hier, elle indique que l'intensification des affrontements entre une coalition des groupes armés et le M23 ont provoqué la perte de vie et des biens, ainsi que le déplacement des dizaines de milliers de civils. Nous appelons le gouvernement de la RDC, la MONUSCO et la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est à redoubler d'efforts pour assurer la protection des civils dans le cadre de leurs compétences et mandats respectifs et de manière coordonnée, soulignent les États-Unis d'Amérique. D'autres détails avec Alain Rung.
Nous appelons toutes les autorités concernées à permettre aux populations affectées d'avoir accès sans entrave à l'aide humanitaire. Et en conscience de la charge croissante que les communautés nouvellement déplacées placeront sur la réponse humanitaire gravement sous-financée, nous réitérons notre engagement en tant que principal donateur d'aide humanitaire en RDC et appelons tous les partenaires à faire preuve de générosité pour soutenir les populations vulnérables, rappellent les États-Unis. La crise dans l'est de la RDC exige une solution politique et non militaire. Nous enjoignons toutes les parties à adhérer pleinement aux accords conclus dans le cadre des processus de médiation régionaux récents, comprenant le cessez-le-feu observé depuis le 7 mars 2023, et nous préconisons un accès sécuritaire et une enquête rapide par les mécanismes de vérification et de surveillance, soulignent les États-Unis. Nous réitérons notre propre engagement à appuyer ce processus et nous utiliserons tous les outils diplomatiques disponibles pour isoler et condamner ceux qui sapent la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, précisent les États-Unis d'Amérique.
Et puis, Unis pour la paix et la sécurité, c'est un programme avec un objectif commun entre la RDC et l'Union européenne, dont le lancement ainsi que la tenue de son premier comité de pilotage en RDC est intervenu hier à Pullman Hotel à Kinshasa. Cet objectif qui est entre autres le renforcement de l'efficacité de la prestation des services du secteur de la sécurité et de la justice est conçu et mis en œuvre entre 2023 et 2025. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a procédé à ce lancement, a relevé les innovations qu'apporte ce programme et a rassuré de la disponibilité du soutien et de l'accompagnement de son ministère. On écoute Jean-Pierre Bemba Gombo dans cet extrait que nous propose Jacques-Yves Molima.
Ce nouveau programme vient consolider les acquis de deux programmes précédents, mais aussi il apporte plusieurs innovations à impact déterminant. L'une des plus grandes innovations est d'abord l'élaboration conjointe et concertée du programme pour une bonne appropriation par les FARDC. Le nouveau programme met en exergue les objectifs majeurs suivants. Favoriser l'interaction entre le niveau stratégique et technique. mettre ensemble les appuis séquencés pour renforcer la technicité et les relations de confiance dans la durée. Partager les expériences et expertises dans le domaine militaire et de la sécurité au modèle de l'Union européenne. Renforcer les capacités managériales des institutions en charge de la sécurité et de la justice militaire. Notre gouvernement attend que les objectifs accordés de manière concertée se réalisent sans atermoiement, sans entrave et sans considération politicienne. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants rassure de sa disponibilité, de son soutien, de son accompagnement ainsi que de son implication totale et diversifiée du dit programme.
Direction la province du Tanganyika, 13 décès et plus de 200 cas de choléra enregistrés dans le territoire de Kabalo depuis deux semaines. Face à cette situation, l'administrateur du territoire lance un SOS aux autorités provinciales et à d'autres partenaires pour une prise en charge suffisante des malades. Le point avec Paulin Munanga.
L'administrateur du territoire de Kabalo indique que la zone de santé qui porte le même nom est à court d'intrants curatifs et ne dispose d'aucun moyen pour stopper la propagation rapide du choléra. Prince Sengo souligne qu'actuellement, la zone de santé de Kabalo a déjà enregistré 13 décès et plus de 200 cas. Il précise que plusieurs cas sont répertoriés au village Katutu. L'autorité territoriale signale qu'il y a aussi Kabalo Centre et d'autres villages qui sont touchés comme Kibule, Kilanga, Kitule et les habitants boivent l'eau du fleuve Congo. Prince Sengo, administrateur du territoire de Kabalo, alerte sur les manques d'intrants pour la prise en charge des malades. On s'est endetté auprès des petits pharmaciens et des commerçants d'ici pour avoir ne fût-ce que quelques petits intrants pour pouvoir prendre en charge les malades. Le plaidoyer que nous sommes en train de faire à la hiérarchie jusque-là n'a pas encore abouti. Les partenaires sont là, mais le besoin est urgent, alors que pour les partenaires, il faut remonter l'information à leur hiérarchie. Tout ça prendra beaucoup de temps pour agir par rapport à l'urgence que nous avons. Signalons que les autorités du territoire de Kabalo poursuivent avec la sensibilisation de la population pour prévenir la maladie de choléra. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Province du Kwango, lancement hier à Kenge de la campagne de vaccination contre la poliomyélite par le représentant de l'autorité provinciale. Près de 560 000 enfants de 0 à 59 mois sont ciblés à travers la province. La campagne va durer 3 jours, soit du 12 au 14 octobre. Le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination, PEV Kwango, le docteur Léon Makambu, indique que cette campagne de masse s'effectue dans un contexte de la grève des infirmiers et par conséquent, ce sont des relais communautaires qui procède à la vaccination. Irène Boma.
Selon le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination, PEV Kwango, cette campagne de vaccination contre la poliomyélite concerne toutes les 14 zones de santé qui composent la division provinciale de la santé du Kwango. Docteur Léon Makambour explique comment cela va se passer.
La stratégie qui a été adoptée, c'est le passage des vaccinateurs porte à porte pour administrer 2 gouttes de vaccin VPO dans la bouche de l'enfant en ayant soin que le flacon de vaccin ne touche pas la langue de l'enfant. C'est pour lutter contre la poliomyélite, éradiquer en donnant à la poliomyélite le carton rouge pour dire non à la poliomyélite dans la province du Kwango.
Pour le docteur Léon Makambu, la grève des infirmiers constitue une difficulté pour la réalisation de cette activité de masse.
La grande difficulté que nous avons, c'est la grève du personnel médical en dehors des médecins. Donc nous sommes en train de travailler avec les relais communautaires. Les infirmiers ne sont pas favorables pour travailler. Ça sera bien. Les choses se sont arrangées. La campagne a été lancée.
Les responsables du PEV Kwango demandent aux parents d'accueillir les vaccinateurs qui arrivent chez eux pour vacciner tous les enfants. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Rendons-nous au Sud Kivu. Toutes les affiches et autres effigies de campagne électorale doivent dégager de l'espace public dans la ville de Bukavu. L'hôtel de ville de Bukavu met en garde tous ceux qui s'élancent dans la campagne électorale précoce par des affiches sur la place publique. Même les médias émettant à Bukavu sont invités à ne pas céder d'espace aux candidats pour campagne électorale avant le 18 novembre 2023. Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
La mairie de Bukavu affirme avoir reçu des instructions du gouverneur de province de dégager de l'espace public de la ville de toutes les affiches et annonces de la campagne électorale précoce. Professeur Augustin Ruchogeza, maire adjoint de Bukavu.
Tout le monde d'ailleurs a constaté qu'il y a risque d'inondation de paperasse dans la ville de Bukavu. Nous sommes en train de lutter pour l'assainissement, l'embellissement de la ville. Et maintenant qu'on commence encore à mettre placer des pancartes, alors qu'il n'est pas encore temps pour faire la campagne électorale, raison pour laquelle on nous a donné des instructions formelles d'enlever tout effigie sur les pancartes tendant à aller dans le sens de la campagne électorale précoce sur toute l'étendue de la ville de Bukavu avant la date le 19 novembre 2023. Alors par cette même occasion, nous allons mettre en garde tout média, tout organe de presse qui diffuserait aussi des messages ayant trait à la campagne électorale des candidats à différents scrutins avant cette date prévue, le 19 novembre 2023.
Signalons que c'est depuis quelques jours que la ville de Bukavu est découverte en campagne électorale. C'est depuis la sortie et entrée de la ville jusque devant des bureaux administratifs en passant par les ronds-points et grands marchés que les affiches et effigies à caractère électoral sont déjà visibles. Emmanuel Elamijokabedi, Bukavu Radio Kapi.
Dans l'actualité, notez aussi que le nouveau secrétaire exécutif provincial de la CENI Kinshasa, Madame Nicole Tshibola, a pris ses nouvelles fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise avec Madame Anne-Marie Mukwayanzo au siège du secrétariat exécutif provincial à Kinshasa, situé sur l'avenue des Poids Lourds. La CENI l'a fait savoir sur son compte Twitter. La décision de nomination du nouveau CEP Kinshasa est intervenue le vendredi 22 septembre pendant qu'elle exerçait la tâche de la présidente du bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection présidentielle au niveau du siège de la CENI.
Actualité internationale.
Israël exige l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza sous 24 heures. L'ONU a été informée par l'armée israélienne d'un ordre de relocalisation de quelque 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud dans les 24 heures, a indiqué jeudi à l'AFP le porte-parole du secrétaire général de l'organisation, ajoutant qu'une évacuation d'une telle ampleur était impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. Le commandant de la 3e zone de défense des FARDC, le lieutenant-général Marcel Mbangu, a effectué une visite hier à Minembwe dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. C'était pour évaluer la situation générale en matière de sécurité dans la zone après une tension de cohésion sociale et de cohabitation entre la 12e brigade des FARDC et les notables. C'est après le meurtre des deux soldats FARDC suivi d'autres représailles dans la zone. À l'étape d'Ouvira, le porte-parole de ce commandant des FARDC a communiqué sur certaines questions d'actualité dans la région. Le major Nestor Mavoudissa répond aux questions de Fiston Ngoma.
Major Nestor Mavoudissa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la 3e zone de défense basée à Kisangani, en séjour à Uvira. Vous êtes aussi coordonnateur de la presse militaire. Vous clôturez aujourd'hui votre séjour à Uvira. Par rapport aux opérations contre les groupes armés locaux et étrangers, que dites-vous des attaques que subissent les FARDC qui, jusque-là, n'auront pas encore reçu l'ordre de traquer ces groupes?
Comme vous savez, les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est une armée loyale, républicaine, respectueuse des textes. La hiérarchie a donné l'ordre à ce que nous puissions observer en ce seul fait. C'est ce que nous sommes en train de faire. S'il y a des attaques, nous ripostons, puisque la mission régalienne des forces armées, c'est de protéger l'intégrité du territoire national. Et par rapport à ces groupes armés, nous avons déjà l'ordre de le traquer. Ça rentre dans nos missions, de traquer les forces négatives. Donc, les groupes armés locaux, il y a un programme lancé par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, les programmes de PDDRCS. Donc, ceux qui veulent être en ordre avec l'État congolais ou la nation doivent adhérer à ce programme. Il y a des rendus que nous avons reçus au niveau de Bukavu, qui sont venus juste de ces mêmes groupes armés, plus précisément de Minembwe. C'est ce que nous encourageons. Nous lançons encore cet appel à ceux qui traînent le pas, qu'ils puissent venir. Nous allons le recevoir pour qu'ils adhèrent à ce programme.
Vous avez un message à adresser à ces groupes armés qui vous écoutent en ce moment?
C'est le message du commandant 3e zone de défense. Nous demandons aux groupes armés étrangers de se retirer et de rentrer chez eux. Mais aux groupes armés locaux, qu'ils viennent adhérer au processus de PDDRCS. C'est les c'est le rempart pour eux pour épargner leur vie. C'est un programme qui est salutaire pour eux, puisque ces jeunes gens de 18 ans, de 19 ans, de 17 ans qui sont en train d'engager, d'utiliser dans les groupes armés, c'est grave, puisque ce sont des enfants. Ils ont besoin d'un développement social, d'un développement intellectuel, puisque nous sommes en train de construire la nation de demain. Engager ces jeunes gens dans les groupes armés, c'est détruire l'avenir du Congo, c'est détruire l'avenir de ces jeunes. Qu'ils lâchent ces jeunes gens à venir adhérer au programme, afin qu'ils puissent être insérés dans la société, qu'ils bénéficient des études.
Monsieur le porte-parole, les veuves et les enfants orphelins des militaires ne sont plus pris en charge depuis quelques mois. Ils ne bénéficient plus de leur salaire. Comment cette question est-elle traitée au niveau de la troisième zone de défense?
Le commandant zone de défense est déjà saisi de la situation. Ce n'est pas seulement une question des veuves et orphelins, mais c'est une question qui prend aussi les militaires actifs que nous avons au niveau de l'état-major zone et dans toutes les unités de l'est du pays. Ceux qui sont venus de l'ouest, lorsqu'on a fait les contrôles, l'IG a procédé à son contrôle à la première zone de défense, ceux qui n'étaient pas vus demeurent jusqu'à présent impayés. Le commandant de la troisième zone de défense s'est déployé, il a écrit, il a pris tous ses contacts pour que la situation soit décantée. Je crois incessamment qu'il y aura une solution.
Ceux-là qui se nomment Wazalendo prennent la place de l'État, mettent en place une sorte d'administration parallèle dans certaines entités. Cette confusion-là entre le programme PDDRCS, le Wazalendo et le FARDC, comment vous traitez ça?
Le commandant de la zone est saisi de l'interprétation erronée de la mobilisation populaire lancée par le commandant suprême. Cette mobilisation ne ciblait pas seulement les groupes armés, notamment spécifiquement le Wazalendo. Non. La mobilisation, c'était pour toute la population. Et le texte ne dit pas que le Wazalendo constitue la réserve de l'armée. Non. C'est une interprétation erronée. Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui seront à mesure de venir adhérer au programme PDDR, c'est qu'ils viennent, qu'ils soient Wazalendo ou non. Mais ceux qui mettent sur place une administration parallèle, ça, c'est ce sont des infractions qu'ils sont en train de commettre. C'est une façon de bafouer l'autorité de l'État. Là, nous ne sommes pas d'accord avec eux et je crois que le commandant zone est clair là-dessus. Ce sont des gens à pouvoir remettre à l'ordre. Ils doivent être remis à l'ordre.
Major Nestor Mavoudissa, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Le porte-parole du commandant de la troisième zone de défense des FARDC dans le sud qui vous répondait aux questions de Fiston Ngoma Mayabala. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.